L'erreur est urbaine sur 48FM, un samedi sur deux, un direct par mois. C'est l'émission qui vous parle d'urbanisme et de la ville, que ce soit à Liège et un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, on va vous parler plus particulièrement de la ville et plutôt de sa culture urbaine. On a avec nous des chroniqueurs et un invité qu'on va pouvoir voir en deuxième partie d'émission. Bonjour Jean-Luc, merci d'être avec nous.
Bonjour à tous, chers auditeurs. Bonjour Alexandre, merci pour l'invitation.
Et merci d'être là avec nous, bonjour. Également avec nous, dans le studio, nous avons Éloi qui va intervenir justement en premier. Bonjour Éloi.
Bonjour Alexandre et bonjour Jean-Luc.
Merci beaucoup, merci d'être avec nous. Et un peu plus loin, à distance, nous avons Baudouin qui est chez lui. Je crois que sa jambe est en réparation, donc il reste à distance. Covid oblige, mais également jambe en réparation oblige.
Promis, la prochaine fois je serai là. Bonjour à tous.
Merci, bonjour. Merci en tout cas d'être avec nous. On commence avec toi. Et Diana également me fait un petit signe de tête. Elle sera là pour peut-être poser des questions à notre invité notamment et pour donner des news de notre partenaire Urbagora qui nous soutient dans cette émission. Bonjour Diana.
Oui, je suis là.
Elle est là en tout cas, tu n'hésites pas à intervenir quand tu le souhaites. C'est à toi Éloi, tu voulais nous parler d'une chronique en particulier, tu es un peu notre expert sociologue, généralement qui fait des liens avec la ville de Liège. On te laisse la parole, on est tout oui.
Eh bien, je te remercie beaucoup Alexandre, je ne vais pas trop prendre l'axe de la sociologie pour une fois, mais plutôt l'axe de la culture et de la ville. Et donc pour commencer donc, cette chronique, vous l'aurez compris, nous parlons de culture urbaine. Bien que ce terme fasse référence à différentes causes, il m'a semblé attrayant d'interroger notre culture de la ville et de la ville à son niveau architectural. Je vais donc vous parler de patrimoine, un patrimoine culturel, un patrimoine architectural, mouvant et au cœur d'une définition toute relative. Son impact et ses interrogations, des ambivalences qui tournent autour de lui et qui en font un sujet aussi brûlant que questionnant. Alors pour commencer à aborder cette notion de patrimoine, il m'a semblé intéressant de faire une analogie à la question du palimpseste. Anciennement, il s'agissait d'écrire sur des supports souvent coûteux des textes et autres éléments et d'ensuite gratter tant bien que mal ces écrits pour en remettre des nouveaux. C'est ainsi que l'on pouvait retrouver des superpositions de données, d'époques et de contextes différents. Eh bien, le patrimoine architectural, c'est à peu près la même chose, et notamment au niveau du territoire en général. Un territoire qui a connu multiples constructions anciennes et plus récentes se voit ainsi défini comme un élément avec une stratification de construction, tel un concept archéologique. Il est donc question d'ajouter encore et encore, mais également d'effacer. Cette notion de territoire est alors un vaste champ de force dans lequel on ne se retrouve plus toujours. Mais ce n'est pas fini. Si le palimpseste, s'applique au territoire, il s'applique également de façon plus précise aux architectures elles-mêmes et aux bâtiments. Il en va donc d'un principe qui se réitère à différentes échelles, ce qui ne facilite toujours pas la tâche de compréhension des dits patrimoines. Un exemple assez marrant est celui de certains artistes, notamment à Rome au XVIe siècle, qui vont à cette époque redécouvrir des vestiges, je parle ici notamment de la Domus Aurea, si certains d'entre vous la connaissent, et qui vont alors redécouvrir cette Domus Aurea et voir qu'elle comportait des scènes d'art antique qui n'avaient pas encore été redécouvertes. Des études et des analyses des fresques de l'Antiquité ont permis de découvrir que celles-ci étaient recouvertes de certains types de graffitis, d'autres artistes étant passés par là. Alors ce qui est un peu le comble de l'histoire, c'est que ces graffitis étaient en fait dessinés par des artistes très connus notamment et comportaient des messages assez enfantins tels qu'on pourrait retrouver sur des WC publics par exemple. Et donc on voit que sur des fresques d'une valeur extraordinaire, on a retrouvé des artistes qui se sont exprimés comme ça, un peu à la folie, je ne sais pas. Alors effectivement, ça sort un petit peu du contexte, mais c'est vraiment pour montrer que parfois le patrimoine et son effet palimpseste devient vraiment complexe à déchiffrer. Et c'est cette notion de déchiffrage du patrimoine et surtout de sa complexité qui m'a questionné et qui fonde le cœur de ce propos et de ces questions que j'amène aujourd'hui autour de la table. Je pense notamment à la vie aujourd'hui en 2021 qui doit tenir compte de toutes ces valeurs et qui exercent notamment une certaine forme de valorisation des patrimoines anciens, notamment pour l'attrait qu'ont les gens aujourd'hui pour l'histoire de leur ville, par exemple, ce qui n'a pas toujours été le cas, soit dit en passant. Finalement, la grande question qui m'a interrogé sur ce thème, c'est surtout comment vivre aujourd'hui dans une ville en constante mutation, avec ses problématiques et ses nouveautés, et garder une main sur l'histoire tout en se rendant bien compte que on ne peut pas figer cette ville comme un patrimoine entier, vu qu'elle porte son nom de ville, qui signifie justement qu'elle est changeante continuellement. Pour un petit peu aller plus loin, je me suis baladé sur le site de l'UNESCO et j'ai essayé de voir un peu comment eux envisageaient cette cohabitation de l'ancien et du nouveau. Et je suis notamment tombé sur une de leurs définitions du patrimoine, qui est la suivante. Le patrimoine matériel et immatériel est une source de cohésion sociale, un facteur de diversité et un moteur de créativité, d'innovation et de renouvellement urbain. Nous devons redoubler d'efforts pour mobiliser ce potentiel. Alors, on sent clairement que nous sommes dans une ère conservatrice de ces éléments et que la tendance tient à les mettre en valeur, et pour différentes raisons, économiques, politiques ou encore culturelles. Mais l'UNESCO stipule également qu'il est important de prendre en compte un ensemble de pressions et de dynamiques qui modèlent la ville, qui viennent également de ces différents secteurs économiques, culturels et politiques. Il n'est donc pas si évident d'émettre un choix ou un acte de conservation dans le sens où cela dépend de variables qui ne cessent de se modeler, et notamment par l'évolution contemporaine de la ville qui demande certaines formes de flexibilité. Alors pour finir, en réponse à ça, on a vu émerger un ensemble de variables progressivement ces 100 dernières années dans la gestion du patrimoine. Alors si autrefois on réutilisait les vestiges pour leurs matériaux par exemple, ou en les modifiant pour les adapter à des nouvelles pratiques, aujourd'hui les choix sont divers et on va notamment parler de reconversion, d'extension, d'adaptation, d'achèvement pour certains cas particuliers, ou encore de réutilisation ou bien de suppression lorsqu'il n'y a plus d'autres choix. Et c'est cette diversité d'actions qui est le terrain aujourd'hui de questions sur le devenir du patrimoine matériel. Et cela s'applique à nos villes à Liège, notamment avec l'exemple bien connu de la place Saint-Lambert, pour prendre un cas connu de tous, qui a totalement été déconstruite en son temps et qui aujourd'hui s'en mord un petit peu les doigts, mais a choisi la conservation de ce qu'il en reste avec l'archéoforum par exemple. Il y a également le palais des princes évêques qui a lui plutôt choisi la voie de la conservation, du moins dans ses façades. D'autres cas prendront la forme d'adaptation pour répondre au mieux à la ville d'aujourd'hui, je pense notamment au musée du Cursus ou encore à la piscine de la cité miroir. Voilà, merci.
Et merci beaucoup, Éloi. Toujours ce parallèle avec la ville de Liège qu'on apprécie beaucoup. Et là, plutôt un retour dans le temps, voir qu'au final, la culture urbaine, c'est pas uniquement maintenant et celle qu'on entend maintenant, mais qu'elle a toujours été présente. C'est une sorte de culture assumée dans la ville. Qui est gratuite généralement, ou du oui. moins à la base, et qui traduit quand même quelque chose de l'histoire. Donc, en tout cas, merci pour ce parallèle souvent historique, et je pense que ça fera écho notamment avec ce que Jean-Luc va nous présenter, évidemment, en deuxième partie d'émission. Je ne sais pas s'il y a peut-être d'autres retours d'autres, ou des questions par rapport à l'intervention des lois.
Moi, j'ai trouvé que c'était intéressant d'identifier toute la sémantique qui a changé sur la manière d'aborder les vieilleries pour les remettre en état, hein, pour le dire de manière très...
Très franche.
Très basique. Et ça me fait penser au cas de la maison Rigaud. À Liège, et on avait publié en 2017, dans le numéro 4 de la revue Dérivation, un article sur cette maison qui s'intitulait « De la difficulté à définir une politique du patrimoine ». Tu te souviens, toi, de cette histoire de la maison Rigaud ?
Non, j'en ai pas entendu parler.
C'était une maison qui se situait vraiment au coin de la rue Franier et de l'avenue Blondaine. C'était la maison qui était un peu dans le chemin quand on a voulu imaginer le prolongement de cette nouvelle passerelle oui. vers les Guillemins. Il y avait cette maison là qui était un peu de style néo-mosan et qui avait été défendue par des personnalités liégeoises comme Bouly Lanners, comme étant une trace du patrimoine liégeois, une figure du patrimoine liégeois. Et oui, je me demandais si tu avais entendu parler de ça et de cet exemple-là, tu vois, mettre peut-être en parallèle ton propos.
Je suis content de l'entendre. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses comme ça qui sont dans une certaine forme d'équilibre. On ne sait pas trop si on doit les accepter en tant que patrimoine, parce qu'il y a aussi toute cette question d'acceptation du patrimoine et de dire est-ce que ça appartient ou pas à ce qu'on considère comme patrimoine.
C'est ça.
Et c'est vaste, ça dépasse même le patrimoine matériel. Il y a le patrimoine immatériel aussi, dont on parle souvent. Si j'en ai pas fait référence, mais je sais bien que c'est une grande part aussi de la culture de Liège, par exemple.
Mmh. Oui, il y avait eu toute une polémique hein, autour de ce bâtiment-là. C'était certains disaient que c'était du faux vieux et que ça ne valait pas la peine. Et puis d'autres disaient que c'était que ce soit néo ne changeait rien au fait que c'était représentatif de toute une époque. Et donc, je trouve que c'était intéressant de voir aussi, de replacer ton propos par rapport à la dimension destruction. Ouais, voilà, ouais. Le patrimoine, qu'est-ce que le patrimoine, qu'est-ce qui n'en est pas, et finalement, est-ce qu'on ne peut pas se séparer de certains trucs, certaines vieilleries? Moi, je n'ai pas d'avis hein, sur ce sujet-là.
Moi, je pense qu'on oublie un peu la notion affective qui est liée aussi
oui,
à ce
ça.
Patrimoine.
C'est ça.
Et c'est ça qui fait réagir des gens. Et c'est très intéressant ce que tu as dit sur la découverte à Rome, parce que finalement, de tout temps, il y a des gens qui ont été, entre guillemets, tagués le travail d'artiste. Donc, il y a toute une réflexion là-dessus, mais elle n'est pas neuve. On a l'impression de dire que c'est maintenant qu'il y a hein, des effrontés, des bad boys, des gamins de merde. Et il y a les grands artistes qui ont fait des choses pas nécessairement louable avant. Et, c'est toute une réflexion dont il faut tenir compte. C'est intéressant.
Et c'est vrai que c'est intéressant. Ça permet de re-questionner aussi aujourd'hui nos actions et nos questionnements sur les gens qui taguent, etc. Enfin, je sais bien qu'on va en parler, donc je ne vais pas, vendre la chose. Mais
je vois le marque.
Je ne défends pas à 100%. Je dis que ça fait partie de l'histoire aussi.
Oui, ça a toujours été là et on a tendance à l'oublier. Oui.
Je vois que le marquis de Sade a fait son petit graffiti dans la Domus Aurea. Ainsi que Giacomo Casanova. Voilà, c'était la minute internet.
La minute culture. La minute Google. Merci en tout cas. Peut-être Baudin, tu avais quelque chose à rajouter par rapport à la chronique des lois ou ce qu'on vient d'ajouter.
Non, enfin je trouvais ça intéressant de remettre sur la table le fait que le patrimoine, c'est pas forcément quelque chose de binaire. On dit souvent, est-ce que c'est patrimoine ou est-ce que c'est pas patrimoine? Et je pense qu'il faut garder en tête qu'on peut aller vers quelque chose de plus fluide. Et par exemple, l'exemple de cette maison qui malheureusement maintenant a disparu.
Malheureusement ou heureusement, c'est tout le débat justement.
voilà, c'est ça le débat. Et est-ce qu'il fallait la garder, est-ce qu'il fallait pas la garder? Donc, ramener un petit peu de nuance dans le débat, je pense que ça fait du bien.
Effectivement, c'est quelque chose qui revient assez souvent et peut-être même de plus en plus souvent, ce fait de vouloir préserver un patrimoine et du coup peut-être quelque chose qui est critiqué, c'est du coup la sensation d'immobilisme dans la ville, le fait de vouloir tout préserver d'un passé, mais du coup qu'on ne met plus en exergue donc notre patrimoine actuel, on préserve le patrimoine ancien, ce qui nous paraît l'image d'une certaine époque, mais qu'on souhaite généralement pas forcément ajouter. Alors on a quand même des exemples patrimoine actuel, on en parle assez souvent, mais oui, la gare des Guillemins fait partie du patrimoine actuel, mais il y a énormément d'autres bâtiments peut-être moins significatifs ou moins médiatisés, mais voilà, c'est une question. Je pensais pas qu'elle allait tomber dans cette thématique-là, mais elle en fait aussi partie.
Dans les cultures urbaines, mais on y revient à chaque fois.
On y revient souvent, ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, merci beaucoup, Éloi, pour ta chronique. Et ça, je laissais la parole en dernier à Baudouin, parce que Baudouin a également une chronique sur la culture urbaine et bulle de filtre. Je te laisse nous parler de tout ça, de tout un programme, Baudouin. C'est à toi.
Qu'est-ce que c'est les bulles de filtre? Depuis quand, je ne sais pas, je ne saurais plus dire, mais je suis coincé. Ils appellent ça les bulles de filtre, mais vous me direz, c'est bon, votre bulle, vous en avez fait le tour, mais non, je ne parle pas des bulles sociales, ou presque. Je parle d'une bulle algorithmique, en fait. Je vais y revenir. Nous sommes ici pour parler de culture urbaine après tout. Quel rapport avec la bulle, me direz-vous? Je pense qu'elle a tout à voir justement. Les termes, culture, ou ce qui est commun à un groupe d'individus, ce qui est produit, inventé, transmis, et urbain, qui est le contexte de cette émulation, en l'occurrence la ville, c'est ce qui, dès les années 90, a permis à une génération de s'exprimer dans un monde où la parole n'était pas toujours accessible. Là, c'était le hip-hop, le tag, le parcours, c'était la culture du changement, de la provocation, la culture jeune, de la rue. La culture qui était accessible en bas de chez soi, hein, au final, à laquelle il était facile de s'identifier. Ouais, il est bien loin maintenant, le temps où toi et moi sautions de toit en toit. Enfin, en reflet, à son contexte et à ses acteurs, elle a évolué au fil des années, prenant progressivement une place majeure sur la scène de la culture globale. Aujourd'hui, le contexte des échanges interpersonnels glisse de plus en plus vers les espaces numériques, hein. Processus de production et de transmission de ces cultures est complètement bouleversé. C'est sûr que c'est plus facile de s'envoyer un lien YouTube qu'une pile de CD. Le filtre, le filtre de cette bulle, au final, ce n'est pas un filtre qu'on choisit. Non, vous le savez peut-être déjà, c'est pour une même recherche Internet, le même moteur de recherche ne vous donnera pas du tout les mêmes résultats qu'à moi. Ou qu'à Yvonne, votre voisine de palier sexagénaire. Et en fait, cette recherche sera le reflet de ce que vos réseaux sociaux, vos navigateurs et autres plateformes jugent pertinent de vous montrer. Cette personnalité présumée est en fait la bulle dans laquelle on se retrouve alors confiné, étant de moins en moins confronté à du contenu jugé divergent de nos convictions. Or, la production de ces cultures urbaines, elle a besoin de cette friction, de cette tension pour rester pertinente. Ces algorithmes ne sont pas en eux-mêmes malveillants, hein. Le danger, il vient seulement du manque d'empathie face aux opinions divergentes que ça pourrait engendrer. Est-ce qu'on veut vraiment vivre dans nos propres réalités individuelles, dans lesquelles, tout le monde serait d'accord avec nous? Je ne sais pas. Il nous revient donc de faire ce choix difficile, de se confronter à l'inconfort, à des points de vue contraires, et à nous de créer des espaces dans lesquels le débat et le dialogue ont encore leur place, qu'ils soient physiques ou virtuels. PS, on nous ment, hein, la Terre elle est plate et Johnny il n'est pas mort, et il y a des puces dans les vaccins, et la 5G ça nous rend gaga.
Merci pour ce PS. Merci pour cette chronique, Baudouin. Et puis oui, justement un bel exemple avec toi qui est loin de nous, mais près de nous dans les oreilles. Merci pour cette chronique et ce petit point. Je sais que tu as pondu assez tardivement, mais en tout cas, il fait plaisir à entendre aujourd'hui. Donc merci pour cette petite nuit que tu as passée pour nous écrire. Ces belles paroles. Je laisse la parole peut-être à nos chroniqueurs ou
Avec grand plaisir.
intervenants sur le studio si vous avez quelque chose à ajouter.
Mais il ne faut pas dire, il ne faut pas raconter l'envers du décor comme ça, à tort et à travers, Alexandre.
Mais les auditeurs sont curieux de voir qu'est-ce qu'on fait. Nous, on n'est pas tout le temps en studio, on prépare nos chroniques et des fois un peu de manière compliquée.
Est-ce que tu parles de ta propre expérience?
Non, ce serait fort d'imaginer que je suis à l'arrache. Non, du tout, du tout. Non, je n'ai pas préparé de chronique. J'ai préparé justement une petite interview avec Jean-Luc Jonlé. On va se retrouver en deuxième partie d'émission pour en discuter ensemble. Jean-Luc Jonlé, donc, qui est l'auteur de l'ouvrage Regard sur le street art en cité ardente. On en parle juste après une pause musicale. On a voulu commencer par quelque chose qui bouge un petit peu, c'est George Baker, Little Green Bag. Je pense que vous avez déjà entendu dans un certain film. Je vous laisse réfléchir pendant qu'on l'écoute et on se retrouve juste après. À tout de suite.
My mind outside in the night, outside in the day. every little green bank. Got to find just a kind of losing my mind. Out of sight in the night, out of sight.
Retour dans l'erreur est urbaine sur 48 FM, c'est la deuxième partie de l'émission. L'erreur est urbaine, où on est un petit peu froid, on a aéré dans le studio. L'erreur est urbaine, l'émission qui vous parle d'urbanisme, de la ville, d'architecture, que ce soit à Liège ou un peu partout dans le monde. Dans cette deuxième partie de l'émission, on va se concentrer un peu plus sur Liège. Mais déjà, il y avait un petit quiz, c'était savoir la musique qu'on vient d'écouter. Donc c'était Little Green Bag de George Baker et qui est dans le premier film de Quentin Tarantino qui est Reservoir Dogs. Voilà, dans la scène de torture. Je vous laisse le regarder à nouveau si vous souhaitez. Un très, très chouette film déjà pour un premier film. Je vous laisse regarder ça à la fin de l'émission, bien sûr. Pour le moment, nous accueillons Jean-Luc Jonlet, donc, qui est l'auteur et surtout photographe de l'ouvrage Regard sur le street art en cité ardente, qui est sorti fin de l'année 2020, si je ne m'abuse.
Milieu de l'été,
voilà, pardon, autant pour moi. En tout cas, c'était sorti l'an dernier et donc ça reprend, c'est un ensemble photographique de nombreuses œuvres de street art sur Liège et les alentours. Voilà, je crois que j'ai à peu près présenté, mais je laisse déjà présenter son auteur, Jean-Luc Jonlet. Merci en tout cas d'être avec nous. Bonjour, et si vous pouvez vous présenter en quelques mots.
Bonjour et merci. Je dirais d'avant tout que je suis liégeois. Je suis passionné, pas expert, amateur féru, dans la vie civile, marié, père de famille, et actuellement, depuis 5 ans, pensionné, après avoir été licencié d'éducation, en éducation physique de l'Université de Liège et moniteur pédagogique à l'ULG jusqu'à 5 ans. Passionné de sport, de voyage et de photographie. Et je mentionne ça parce que, en fait, je m'estime être un humain curieux, éveillé, et je voyage pour aller à la rencontre des beautés du monde, bien sûr, et surtout des déserts, etc., mais aussi à la rencontre des gens. Et c'est ce qui me passionne aussi à travers ce regard des formes d'expression humaine d'art dans la société actuelle et l'intérêt que j'ai aussi pour les jeunes depuis toujours, avoir un contact, être ouvert. Je trouve que les voyages et la rencontre permettent de déconstruire les préjugés et chez moi c'est très important. Bon, j'ai été formaté dans mon éducation catholique, chrétienne, jésuite aussi au collège bien connu de Liège, mais une ouverture incroyable et en même temps des œillères. Et en voyageant, je m'ouvre de plus en plus à l'humain. C'est ce qui me passionne.
Très bien. Et donc, on voit cet intérêt, en tout cas, pour pas mal de choses assez diversifiées. Peut-être d'être à contre-pied aussi par rapport aux habitudes et à l'éducation que vous avez. Mais depuis quand, est-ce qu'il y a eu un tournant à un moment donné où vous vous êtes intéressé en particulier au street art et comment ça commence? Comment on s'y intéresse?
C'est il y a une quinzaine d'années. Il y a une cellule de Liège qui s'appelle Palissard, qui a été mise sur pied par l'ex-échevin, M. Firquet, pour justement attacher une certaine importance à la culture urbaine, plus contemporaine, et ils ont créé un circuit, ça s'appelle le circuit Palissard, circuit de créativité urbaine, et je l'ai emprunté en marchant un peu à travers Liège et en arpentant tous ces coteaux, et j'ai découvert vraiment à ce moment-là ce type d'expression, et je ne sais pour quelle raison cela m'a touché, cela m'a passionné, et depuis que je suis pensionné, alors là j'y ai consacré beaucoup de temps, par curiosité et par intérêt, parce que je trouvais que, contrairement à d'autres villes de par le monde, hein, que je rencontrais dans mes voyages, là où j'ai été, bah, la culture du street art et de cette expression, en tout cas, de la jeunesse actuelle, n'était pas suffisamment valorisée. Et j'ai, voilà, humblement, en prenant mes photos, bah, j'ai gardé un souvenir, une mémoire de ça. Je me suis rendu compte que rien n'existait, en tout cas au niveau de Liège et de sa région, sur des ouvrages qui mentionnaient ce fait-là et qui gardaient cette mémoire, justement. Et j'ai eu envie, ben voilà, de rendre ce témoignage. Et tout ça s'est accompagné petit à petit aussi de rencontres avec les chevinards de la culture, la ville de Liège, avec l'Office du tourisme, pour leur dire que c'était important actuellement de consacrer de l'énergie, certains moyens avec un retour touristique qui peut être très important chez les jeunes sur justement l'émergence parler de toute cette culture. Donc voilà, ça est venu un peu spontanément comme ça du coup j'ai eu des expositions même au musée Curtius que la ville de Liège a appuyé. Et bon, on en reparlera peut-être tout à l'heure, hein, certainement, mais il y a un paradoxe en le fait que la ville a été attentive à ma démarche. Hein, c'était juste pour mettre en valeur, non pas mon art photographique, mais cette culture urbaine. Et dans les mêmes temps, il y avait un procès à la ville de Liège qui condamnait un tagueur à un an de prison et 10 000 euros d'amende pour nettoyage, quoi. Donc, on est dans une actualité. Et je vais terminer, je vais un peu dans tous les sens, mais pour vous dire en quoi ça me passionne, je me suis rendu compte que les expressions qu'on pouvait lire à travers ces graphismes et l'écriture utilisée par ces jeunes, et moins jeunes, parce qu'ils n'ont pas tous que 18-20 ans, et il y a même des adultes très mûrs qui continuent à faire des fresques et à graffer, j'y ai retrouvé, 2 ans avant qu'ils ne soient dans la rue, tous les slogans que les gilets jaunes ont mis en avance et que les marches des jeunes pour le climat ont mis en avance. Il y avait ce mal-être sociétal qui s'exprimait. Et je trouvais dommage que la société civile, bonne bourgeoise, liégeoise, ne connaissait rien de tout ça. Parce que ces gens-là vont s'exprimer dans des endroits, c'est vrai que parfois on aurait peur d'aller mettre un pied, et qu'on ne leur laisse pas la place non plus pour s'exprimer. Et voilà, donc j'ai ramassé toute une série de témoignages, j'ai fait énormément de photos. Et ma première exposition, c'était justement les murs, hein, au sein de la ville. Et c'était toutes ces expressions. Et elles ont été exposées dans un grand musée de Liège. Mais c'est place Saint-Lambert qu'il aurait fallu les exposer pour que plus de gens encore puissent se rendre compte de ça. Et dans la foulée, la deuxième exposition, alors c'était plutôt les qualités artistiques. Les fresques et mes coups de cœur, parce que franchement il y a là des talents incroyables, mais bon voilà, qui manquent d'espace pour s'exprimer. Enfin, voilà,
Non, c'est très bien, c'est aussi des interrogations qu'on avait. C'est effectivement déjà le rapport politique, vous l'avez déjà un peu présenté. Je me posais également la question, est-ce que parce que vous l'avez évoqué un tout petit peu en première partie de l'émission, ce fait que c'est encore relativement timide au niveau à Liège, peut-être notamment la reconnaissance politique et on va dire peut-être grand public, mais est-ce que vous voyez peut-être en observant dans le street art dans d'autres villes, dans d'autres pays, qu'il y a une signature liégeoise ou une signature belge, un style ou un message particulier qui est véhiculé sur Liège et sa région?
Je ne vois pas vraiment quelque chose de particulier. Je vois des différences. Voilà, j'ai eu la chance d'être à Valparaiso il y a 2 ans, qui est Valparaiso capitale mondiale à l'UNESCO pour sa qualité de ses fresques. C'est vraiment tous les 10 mètres, c'est des fresques gigantesques, très colorées. Et là, il y a un rappel, un retour à l'histoire, aux racines.
au folklore, aux traditions. Il y a un retour sur l'histoire du Chili ou de la Bolivie que je ne retrouve pas ici, un retour sur, entre guillemets, le folklore lié à Chantier ou les luttes d'indépendance et l'esprit frondeur du Liégeois bien connu. C'est plus lié à une évolution générale à partir de fin des années 90, du hip-hop qui est venu des États-Unis, etc. Et alors il y a une évolution, ça oui, dans les styles. Il y a une époque où on représentait des super-héros et on leur faisait dire des mots très crus. Mais ce n'est plus tellement cette vogue-là. Je vois une évolution dans le graphisme, dans les
différents styles,
mais pas vraiment une appropriation ou une marque liégeoise. Personnellement, je ne l'aperçois pas. Mais comme je dis, je ne suis pas un expert. Je suis un observateur amateur passionné.
Déjà un observateur passionné et du coup qui suit et qui a déjà un bon inventaire. On le voit justement dans l'ouvrage, il y a un inventaire de différents artistes. Vous laissez justement aussi la place, vous ne mettez pas de description, vous mettez seulement l'auteur pour le reconnaître, mais vous laissez la place peut-être plus à l'imagination ou à l'interprétation.
Oui, moi je n'ai pas de message particulier. Je voulais vraiment faire une œuvre graphique. En resituant aussi les fresques et les tags et les signatures avec un contexte urbain, non pas simplement l'œuvre de l'artiste, parce qu'alors là, c'est simplement un plagiat, mais y mettre également, poser mon appareil à un endroit avec un élément de la vie urbaine qui le situe et qui lui donne aussi à une autre dimension. C'est juste ma part, entre guillemets, créative, photographique. Et petit à petit, j'ai même au niveau photographique, et ce sera une de mes futures expositions qui est programmée au mois de juillet, pendant tout le mois de juillet au Château d'Oupey, ma prochaine exposition s'intitulera « City's Walls are Screaming », donc les murs de la cité crient, parce qu'avec un procédé photographique à la prise de vue, on a vraiment l'impression que les personnages qui dessinent, qui taguent, qui font à la bombe, sortent du mur pour crier quelque chose, pour pleurer, pour rire. Mais c'est un procédé photographique, je ne vais pas m'étendre là-dessus maintenant, un dézoomage rapide qui fait qu'on a vraiment l'impression que le mur crie. Et ça, c'est programmé. Là, c'est une démarche plus artistisante de ma part, mais grâce à eux. Je n'ai pas commencé à faire des photos de fraises, de tacs, de signatures. Dans ce but-là, ça est venu petit à petit. Mais je crois que c'est assez particulier. Je me réjouis de partager cette découverte et cette manière de les voir, de leur rendre hommage, parce que c'est vraiment ça. À côté de mes expositions, j'ai passé un temps fou à aller discuter avec les Chevinards, avec la ville, avec l'Office du tourisme. Et petit à petit, il y a des idées qui vont mûrir, il y a des projets qui vont peut-être aboutir. Et voilà, ne fût-ce que pour ça. J'avais juste envie que ce soit plus visible, que cet art-là d'expression contemporaine chez des jeunes qui ont des choses intéressantes à dire puisse s'exprimer sans être systématiquement traité, de bad boys ou les services de la ville qui viennent tout de suite carchériser et on dénie et on dit que c'est pas bien, quoi.
Et justement, cet accueil, en parlant de ces artistes, l'accueil qu'ils ont, vous venez avec votre appareil photo pour prendre en photo, peut-être pour immortaliser plutôt des œuvres qui sont généralement éphémères dans la rue. Comment vous êtes accueilli par ces artistes? Il y a un photographe qui vient, qui est peut-être pas de la même génération non plus. Est-ce que justement pour eux c'est intéressant parce qu'ils disent « Ah tiens, ça peut permettre justement, comme vous dites, d'être mieux entendu » ou est-ce qu'ils se disent « Bah non, moi j'ai envie que mon art reste dans la rue ».
Ils ont été très étonnés de voir, entre guillemets, un vieux s'intéresser à leurs œuvres et en même temps très intéressés par ma démarche. Comme dans toute démarche humaine, quand on n'est pas, entre guillemets, des mêmes générations ou des choses comme ça, c'est le respect et la parole qui comptent. Et j'ai vu comme ça des artistes qui s'exprimaient. Je leur demandais, tiens, qu'est-ce que vous faites? Ah, ben, on prépare un mur parce qu'on va faire une animation dans le quartier, c'est le quartier Saint-Léonard. Et les jeunes vont pouvoir venir pendant un week-end apprendre les techniques, etc. J'ai dit, ah, mais ça, c'est chouette, c'est bien, ils en ont besoin. Et je connais quelques-unes de vos œuvres aussi. J'ai dit, ben, c'est vraiment bien ce que vous faites, c'est de l'art. Oh, monsieur, si vous veniez au cours, à l'académie, on se fait traiter de m'as-tu vu par nos profs, quoi. Donc, ils étaient à la fois étonnés, et je n'ai pas dit ça pour faire plaisir, c'est comme je ressentais les choses. Et donc, petit à petit, dans le respect, il y a eu une écoute, et ils m'invitaient parfois à dire, oh, on fait une jam là-bas, on rassemble 10 ou 12 personnes, on a un thème. Enfin, ils m'expliquent un peu comment ça fonctionne, et moi, je découvre tout ça petit à petit, mais donc, ils m'ont accepté, et je leur ai dit que je n'étais pas là pour voler des photos et j'avais besoin de leur autorisation. Voilà, le livre, ben, j'ai contacté chaque artiste, même certains qui habitent à Singapour ou quoi, en disant, voilà mon projet, est-ce que vous êtes d'accord? Voilà, il faut respecter. Je crois que si on le fait dans cette démarche-là, humaine et de respect, ben, on peut s'ouvrir beaucoup d'horizons. Et moi, j'ai découvert beaucoup de choses, mais je vous dis très humblement, sans être un expert. Voilà.
Et donc, il y a cet ouvrage, il y a différentes expositions, oui, que vous avez faites depuis donc une quinzaine d'années que vous suivez.
Oui, c'est vers les années 2003 que j'ai replongé là-dedans.
D'accord, donc un peu plus de 15 ans. Est-ce que vous voyez aussi, donc on a parlé par rapport aux autorités publiques, est-ce que la perception du public, vous trouvez qu'elle a changé, du moins à Liège, par rapport à cet art? Est-ce que les gens sont un peu plus curieux? Est-ce qu'il y a davantage d'événements peut-être organisés également directement par ces street artists?
Ben, on a vu éclore sur Liège, si on est attentif, bon, pas nécessairement en traversant vite en voiture, mais en marchant dans les quartiers, on a vu des frontons, des murs qui ont été recouverts de fraises. Donc ça, c'est l'art subsidié, hein, commandité.
Justement, celle qui est juste notamment à côté des studios de 48FM, en face, place du 20 août.
Pour l'université. Ça, c'est pour le 200e anniversaire de l'université, il y a eu cet appel. Et il y a également, enfin, c'est une petite parenthèse que je fais, au Sartillement, dans un couloir entre les parkings en face des grands amphis, il y a le plus connu, dans le monde du street art, qui est à Singapour actuellement, Jabba, Didier Mathieu, qui a fait... Voilà, l'université lui a demandé de faire tout un couloir de fresques, etc. Donc, oui, ça, les choses évoluent, et je pense que dans les quartiers, grâce à Palissard, il y a eu, au boulevard, la Constitution, un hommage à Grotteclaas, avec aussi une immense fresque. Il y a eu l'ancien hall, enfin le hall omnisport de Bressoux, hein, derrière la Bavière, qui a été également entièrement, enfin à moitié je dirais, repeint avec des fresques, et on a fait appel à un collectif et à une dizaine d'artistes liégeois qui se sont exprimés. Donc ça évolue. La population, il y a dans les quartiers, certains n'apprécient pas trop. Mais il faut arriver à dissocier l'expression dans le respect et avec les autorisations d'un certain vandalisme, enfin, ou de rebelle. Bon, c'est tout le problème. Je pense que le street art est né d'une revendication presque violente ou quoi, parce qu'il n'y avait aucune écoute, aucun lieu pour s'exprimer. Et là, bon, moi, je ne suis personnellement, j'adore la fresque parce que son caractère graphique, artistique. J'apprécie beaucoup les mots, les expressions, les signatures, mais je ne trouve que ce n'est pas respectueux d'aller, on en parlait tout à l'heure dans la chronique, d'aller remettre un graphe sur un très beau monument ancien. Je trouve qu'il y a un manque de respect. Voilà, donc on se trouve un petit peu entre les deux, quoi. Et, oui, oui.
Moi j'ai une question. J'ai plusieurs questions en fait. Est-ce qu'un dialogue n'est pas possible entre l'ancien et le nouveau, comme disait Éloi? Ça fait débat, hein, cette question de légitimité, de cadre ou pas de cadre. Et parfois l'illégalité va questionner encore autre chose. Quelque chose de supplémentaire par rapport à l'art. qu'est-ce qui est art, qu'est-ce qui n'est pas art, et pourquoi l'art doit-il s'inscrire dans un cadre. Certains artistes peuvent se retrouver un peu frustrés de devoir créer dans des cadres qui ont été choisis pour eux ou qui sont normés. Et puis alors aussi, moi, une interrogation que j'ai, c'est je bug. C'est samedi matin. Mais...
Vas-y, on te soutient bien. Termine ta question.
Donc, la question, c'est qu'est-ce qui... Ça y est, j'ai bugué, c'est rien. Je vais poser une autre question. Moi, vous parliez de Cities Wall are Screaming. C'est une exposition qui va se dérouler quand?
Du 9 au 26 juillet, dans la tour du château d'Oupey.
Ah, voilà,
avec deux autres photographes. Je n'ai pas encore rencontré Pablo Jacquemin, un jeune, et par contre quelqu'un de plus connu qui était professeur à l'Académie par ici, un certain Desiderio, mais je ne connais pas. Moi, j'ai vu sur Google qu'il avait déjà fait 50 expositions même partout en Europe, mais aussi je pense que c'est orienté quand même sur photographie et culture urbaine, art urbain, et moi c'est ma partie stricte.
Donc du
9 au 26 juillet.
Du 9 au 26 juillet, on va le mettre sur notre page Facebook. Mais la question que j'avais, oui c'est ça, c'est est-ce qu'on ne risque pas de lisser la ville en créant trop de cadres comme ça, en créant ces contextes acceptés de création? Est-ce qu'on ne risque pas de rentrer dans cette logique de gentrification où il y a les beaux quartiers, où l'art devient, c'est ça, quelque chose de... presque de bourgeois, je sais pas qui, enfin pas bourgeois, peut-être que j'exagère, mais de propre, de normé, je ne sais pas comment le dire d'autre. Peut-être toi, Éloi, tu as un avis sur cette question-là?
C'est vrai que on a un peu cette dimension-là de l'art dans son contexte, pour qui est-il fait et comment est-il, et je comprends ta question, comment est-il interprété, pour qui on le fait en fait. Et c'est un peu la question du milieu. Est-ce qu'on intervient pour redonner une cote à un lieu ou est-ce qu'on intervient plutôt pour un message? Je pense qu'il y a plusieurs façons d'interpréter notamment ces graffitis. C'est peut-être un peu ça la question. C'est pour qui le fait-on et dans quel but, quoi. Il y a sûrement plusieurs buts. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Il y a beaucoup d'artistes qui revendiquent de trouver et qu'on leur laisse un peu plus d'espace de liberté. Bon, il y a 10 ans d'ici, la ville avait, c'était une première démarche, entre guillemets, préparé, accepté, signalé qu'il y avait 5 endroits légaux pour aller faire ça. Il y en a un qui fonctionne très très bien, c'est au skate parc de Cointe, hein, au boulevard, il est vraiment, hein, c'est très agréable. En plus, il y a l'activité des rollers, des skaters, etc. Il y a une chouette ambiance, il faut aller là un jour d'été, après-midi, c'est vraiment magnifique de voir l'ambiance qu'il y a, et il y a de très belles fraises des graffeurs. Il y avait un mur à Bavière, mais il a été détruit. Il y avait un mur du côté de la rue Grétry-Rive Natalis, il a été détruit. Il y en avait dans le quartier Saint-Léonard, il a été en partie détruit, mais il a été reconstruit. Donc celui-là, les graffeurs le savent, parce qu'ils n'ont pas envie non plus de se choper certaines amendes, mais ils réclament d'avoir... Enfin, il faudrait que la ville puisse être l'intermédiaire pour offrir plus de pignons. Il y a beaucoup d'endroits à Liège, hein, je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails, où il y a des barricades ou des palissades ou des murs. Et on voit maintenant que grâce à Palissard, il y a des choses qui viennent et beaucoup de gens apprécient. Le long de la dérivation, le travail qui a été fait là-bas sur deux faces de building, c'est très joli. La plupart des gens... Petit à petit...
Il y a une dimension très esthétique quand même dans tous ces travaux-là.
Alors, tu parles de lissage ou... Bon, à Valparaiso, les collines sont avec des gens très très pauvres, mais il y a une culture, et même si on a, entre guillemets, un baraquement, on va faire appel à un street artiste pour redonner de la valeur à la limite au baraquement et on est fier de la fresque qui va venir faire chez vous. Enfin bon.
Est-ce qu'on doit distinguer les deux formes d'art? D'un côté, les fresques qui qui sont organisés, qui sont planifiés, qui... parce qu'il y a aussi cette dimension-là de, par rapport au temps, à la planification de l'œuvre, à la création est moins intuitive, impulsive, enfin intuitive non pas forcément, mais impulsive et comment dire, anarchique peut-être, dans le cas d'une fresque. Et puis alors, on a d'un autre côté tout ce qui est graffiti, graphe, et ces aplats de... Ouais, vous parliez de murs, mm-hmm. hein, qui sont laissés à la disposition de certains artistes. Dans ces cas-là, on n'est pas dans des fresques planifiées, mais on est dans la création directe.
Oui, oui, oui.
Et donc, est-ce qu'il faut distinguer ces deux types d'art et leur laisser de la place à chacun?
Bah, oui, il faut laisser la place à chacun, pour moi. Mais il y a des street artistes qui ont un talent incroyable et qui ont juste la passion, la démangeaison. J'ai déjà vu, après 15 jours, s'il a fait très très mauvais et qu'ils n'ont pas été s'exprimer, ils sont en manque. C'est vraiment fou. Mais ils ont un talent fou. Ils font des choses incroyables dans des lieux souvent qui ont été abandonnés par la ville. Et là, je pourrais parler aussi pendant une heure sur la honte que c'est d'abandonner des lieux qui étaient en état impeccable et qu'on a laissé... Bon, ça, c'est un autre sujet, là, la patinoire de Liège et, par exemple, l'ancien bâtiment de formation du Forum à Cointe, où de mes amis, vraiment un artiste talentueux, incroyable, fait des fresques gigantesques. C'est un peu son musée. Hein. Et puis récemment, la ville est allée remettre des barrières, cadenas et tout, parce qu'il avait fait une magnifique fresque en hommage à Alison Jadin, hein, la jeune barbière liégeoise, qui s'est suicidé, et il y avait tellement... c'était un hommage, et puis ça s'est dit sur les réseaux sociaux, etc. Personnellement, j'étais là quand il l'a terminé, j'étais faire des photos le lendemain en présence de la famille, et c'est une photo que j'ai postée via Facebook, qui a été likée partout dans le monde, 4K, je ne sais pas quoi. Il y avait une émotion, une émotivité, mais des gens ont voulu aller rendre hommage là-bas, et comme c'est des lieux un peu dangereux, la ville a tout barricadé. Et malheureusement, le street artiste a perdu, je dirais, un espace où il pouvait s'exprimer.
Oui, c'est ça. En plus, il y a la dimension danger des lieux.
C'est la même chose avec la Chartreuse. Il y a aussi de très belles choses, mais c'est un endroit qui est très dangereux à certains niveaux. Il ne faut pas y aller comme ça, les yeux fermés.
Tout à l'heure, vous nous parliez de vos... en off, hein. De vos concerts Deep Purple à Forêt Nationale où on brisait les
oui,
portes d'entrée.
Oui, c'était une autre
Il y avait
forme.
Un autre rapport au danger, peut-être.
Oui, c'est certain. Oui, oui. Mais ici, je trouve, voilà, moi, par mes expositions, c'était pour dire, mais ça existe et c'est pas sauvage et ils ont des choses à dire et ils ont une expression. Il y a des, entre guillemets, des tout grands artistes qui ont des cotes internationales dingues maintenant, qui à leur époque ont été rejetés par les autres peintres et qui ne participaient pas au salon parce qu'ils avaient des idées avant-gardistes ou quoi. Je veux dire, c'est un peu la même chose que le regard des gens en place qui sont dérangés et qui veulent supprimer ou qui ne laissent pas la place. Eux ne revendiquent pas... Enfin, c'est une certaine liberté, oui, plus de surface parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, moi, ça ne me dérange pas qu'ils aillent sous les ponts d'autoroute. Il y a des magnifiques choses aussi à faire, mais c'est chaque fois un peu dangereux pour eux. Bon, il y a même aussi avec les trains, les wagons, etc. On peut discuter de tout ça.
Oui, bon. Quel lieu, quelle forme d'art, éphémère, oui. Pas éphémère, fresque, graffiti. Voilà, il y a tellement de questions, on se pose beaucoup de questions en 2021, on se creuse la tête.
Est-ce que la violence, le non-respect, moi j'ai encore de la vieille école, ma transgression, oui, mais pas n'importe où, n'importe comment. Enfin, personnellement, moi ce que je trouve, oui.
Il y a une question. Ouais.
J'avais juste une petite question qui rejoint un peu cette forme de l'art là. C'est rare de voir dans l'art une photographie d'un autre art, et ça je trouvais intéressant. D'avoir un peu votre avis sur, parce que vous êtes photographe et vous photographiez ces œuvres, comment est-ce que vous vous placez? Est-ce que vous êtes artiste aussi ou pas, ou reporteur de...
Ça, c'est une bonne question.
Oui. Avant tout, je suis témoin, reporter, je garde une trace de choses qui sont justement là, très très éphémères, là, je peux même le dire parce que j'ai été amené à faire moi-même une... Enfin, ça, c'est un aparté, mais je reviendrai à sa question. Mes enfants, il y a 2 ans, oui, m'ont dit, papa, tu n'arrêtes pas de les photographier, il serait peut-être temps que tu apprennes à en faire. Ah bon, mm-hmm. Ok. Mon fils connaît très bien aussi un peu le milieu. Il m'a dit, on a passé à 4-5 avec donc, ma femme, ma fille, mon fils et un street artiste. on avait eu un projet, donc on est venu, et pendant 4 heures, on a fait une immense fraise de 6 mètres sur 3, qui a tenu 15 jours. Donc, je ne sais plus pourquoi je digresse comme ça. pour dire qu'il y a à la fois la frustration que ça disparaisse, et en même temps, on sait que c'est éphémère et que ça va être... Alors, certaines œuvres, entre eux, parfois, il y en a qui sont très respectées et les œuvres restent très, très longtemps. D'autres qui sont barbouillées plus rapidement. Et il y a des gens dont le seul but, c'est de... Enfin, j'appelle ça abîmer, démolir, ne pas respecter. Donc, voilà, il y a des lieux où toutes les surfaces ont été tellement burinées et cassées qu'il n'y a même plus moyen d'aller peindre, ou alors il faut des litres de peinture, ça coûte très très cher, parce qu'il faut, hein, ils ne sont pas subsidiés pour ça.
Donc vous voulez vous faire le témoin de... Vous ne voyez pas spécialement comme un artiste, mais plutôt comme quelquun qui rencontre de
l'art. Oui, dans le livre, dans les expos qu'il y a au cursus, etc., plutôt le témoin, etc., dans la future exposition, ça c'est une démarche d'artiste, enfin bon... Certains disent que je le suis et j'en suis heureux, mais c'est pas ça. Moi, ce qui me passionne, c'est de partager une émotion, une passion, et que ça prenne corps, quoi, que petit à petit, dans la ville, cette forme...
Être porte-parole d'un mouvement.
Oui, porte-parole, quoi. Oui. Enfin, mais je vous dis, à mon niveau, et sans avec les banderoles ou quoi, mais aussi de susciter, de dire tiens, ce serait bien qu'on fasse un événement, une espèce de symposium avec, sur des grandes toiles, sur la place Saint-Barthélemy, on fait 10, on a des conférences, il y a eu une espèce de réunion comme ça sur le hip-hop il y a 3 ans d'ici au cursus, mais je dis faites-le aussi sur... Donc, et j'entends qu'il y a de la résonance et que ça pourra se mettre... Voilà, c'est tout, et on n'a pas besoin de dire que c'est Jean-Luc Jean-Lecky, moi... Voilà,
en tout cas, vous avez été l'auteur de ce livre-là qui s'appelle
Regard sur le street art.
Voilà. Et ce livre est toujours disponible en librairie ?
Il y a encore des exemplaires, donc Livre au Trésor, Watitude, Pax, au magasin aussi Chromatique, donc Russeur de Haas, qui est le seul magasin qui vende les produits pour aller justement faire c'est bon, etc. Et
on a plusieurs très adresses. Et vous allez ce livre va être réédité ou va être réimprimé? Au cas où des auditeurs iraient voir.
Il y en a qui me le demandent, mais bon, moi, ma démarche, ce n'est pas de faire du business là-dessus. C'était de... Voilà, j'ai pris le risque. C'est à compte personnel, donc il a quand même fallu avancer une certaine somme, hein, pour faire la maquette, imprimer 300 exemplaires. Et je suis heureux de l'accueil qu'il a eu partout et du fait qu'à 8 mois même de confinement... sans faire d'événements pour en parler vraiment beaucoup. Mais enfin, voilà, il m'en reste, je dis, à la maison, il me reste 6 exemplaires. Et il doit y en rester une cinquantaine, une soixantaine dans les différents lieux.
Un éditeur nous entend, alors peut-être que c'est le moment de vous proposer une réédition.
Et je vous dis, j'ai essayé aussi que ce soit le... Voilà, je rentre dans mes frais, mais je n'ai aucun bénéfice là-dessus. Et ce n'était pas le but, c'était que tout le monde puisse... Et surtout les jeunes qui sont férus de cette discipline-là, de cet art-là, qui puissent l'approprier. Il y a même des écoles avec des sections artistiques qui avaient l'air intéressées, à la limite, pour partir de là avec leurs étudiants, les faire réagir. Voilà, toutes ces réactions et toutes les rencontres que j'ai eues, si je suis ici, c'est grâce à ça. Et il y a d'autres projets avec l'ASBL Souplex, que vous connaissez certainement. 4000 Liège aussi, j'ai été, Ludovic et son photographe, je les ai véhiculés pendant 4 heures dans la visite de la Chartreuse. Ils ont fait une très belle séquence sur Facebook. Enfin, voilà, c'est la passion, c'est ça, c'est partager. Et dans mes grands voyages, j'ai fait aussi des tas de conférences là-dessus, mais il y avait l'aspect esthétique de la photographie, mais... quand je vis une émotion, j'essaye de la partager, voilà. Un peu un passeur d'émotions, en étant humble. Voilà, et ici, c'est un peu la même chose. Et comme je en parlais tout à l'heure, Alexandre, j'ai fait, il y a 15 ans, j'ai créé les parcours d'art Art Nouveau, Art Déco, à Liège. J'ai créé. Donc pendant un an, j'ai marché dans Liège, j'ai fait 800 000 photos et j'ai créé les itinéraires. Et puis Voilà, ils sont vendus. Maintenant, moi, je n'ai pas un euro là-dessus, pas un cent. C'est la passion de ma vie, de ma ville aussi, c'est pour ça que Liège, je trouve.
On vous sent passionné, en tout cas. On ne va pas vous couper la parole, désolé, Jean-Luc. Mais on va passer à la suite, comme on est un peu limité dans le temps.
Merci, en tout cas, pour ce partage. Et ce partage de cette passion que vous nous faites. On aurait envie, parce qu'on sent en plus que vous vibrez vraiment pour cet art, on aurait envie d'en avoir plus. Mais c'est vrai que l'émission est limitée dans le temps. Mais j'invite vraiment, effectivement, nos auditeurs à plonger sur cet ouvrage et puis peut-être à pouvoir vous rencontrer à la suite de prochaines expositions, de visites dans de meilleures conditions, on l'espère bientôt, peut-être justement des événements à suivre rapidement.
Oui, si je peux me permettre, pour l'instant, j'ai de l'autre côté de la Meuse, au quai de Gaulle, dans une jeune galerie qui s'est ouverte l'année dernière, donc c'est Galerie Cellule 10B au quai de Gaulle, une exposition avec une quinzaine de photos tirées de mon ouvrage, et elle se termine, cette exposition, avec trois autres artistes aussi, des peintres, et vraiment des choses très intéressantes, donc jusqu'au dimanche 21. Donc c'est ouvert le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, de 15h à 19h en semaine, de 11h à 15h le dimanche, et j'y suis régulièrement, et malgré le confinement, il y a quand même du passage. Bien sûr, on respecte toutes les règles, on n'a pas fait de vernissage, mais elle a un beau succès et on peut voir des choses là, et j'ai la chance que quelques photos ont été vendues, ce qui me permettra de continuer à prendre d'autres clichés.
Et on espère bien. Merci en tout cas beaucoup, Jean-Luc Jonlet, pour le regard sur le street art en Cité Ardente, dans toutes les bonnes librairies de Liège. On vous invite à découvrir ça et l'exposition qu'on partagera également comme l'ouvrage sur notre page Facebook L'Erreur est Urbaine. Merci encore pour cette présentation et pour cette passion que vous nous avez partagée.
Merci à vous. Je m'excuse si j'ai un peu débordé parfois des questions prévues. Mais
ça fait partie du plaisir qu'on aime partager. Et justement, vous nous partagez également une chanson que vous avez voulu nous proposer. On demande souvent à notre invité de pouvoir nous proposer quelque chose en lien, plus ou moins. Et on vous laisse avec Jean-Louis Aubert, pardon, c'est bien sûr. On écoute ça tout de suite et on se retrouve dans la dernière partie de l'émission avec Edwin. À tout de suite.
va flotter. Bien sûr, mon amour, on va traverser. Bien sûr, mon amour, presque arrivé. Bien sûr, mon amour, il faut pas douter. On s'aime si fort ensemble, on va gagner. On s'aime si fort ensemble, on peut flotter. Mais tu trembles, il me semble. Je vais nager.
L'erreur est urbaine sur 48FM, l'émission qui vous parle d'urbanisme, de ville et d'architecture un peu partout dans le monde. Et à Liège, on avait Jean-Luc Jonlet avec nous en deuxième partie d'émission pour nous présenter son magnifique ouvrage « Regard sur le street art en cité ardente » que vous pouvez retrouver dans les librairies liégeoises. On vous invite à le découvrir. Merci en tout cas Jean-Luc d'avoir été avec nous pour nous présenter votre passion et votre ouvrage. On termine par notre petite partie hors d'œuvre, notamment avec Edwin qui est à distance. Est-ce que tu m'entends, Edwin ? Bonjour, Edwin.
Bonjour à toutes et tous. Oui, je vous entends très bien.
Magnifique.
Est-ce que vous m'entendez ?
On t'entend très bien aussi et on t'écoute. Alors, il faut que je te prévienne, puisque au niveau logistique, on est un petit peu court. Tu as quelques 5 minutes pour nous faire ta chronique, si cela tient.
C'est parfait.
C'est magnifique. Merci. On t'écoute pour ta chronique.
Alors aujourd'hui, veille de Saint-Valentin, je vous ai fait une spéciale Saint-Valentin qui s'intitule « Ces vieux qu'on aime ». Alors je sais pas si vous capterez le jeu de mots, moi je l'ai pas écrit et il me plaît beaucoup.
Bravo.
Alors moi, vous le savez, j'aime vous parler des vieux, oui, des vieux, ou si vous préférez, des aînés, des seniors, des personnes âgées, des 3x20, voire même des 4x20. D'ailleurs, j'aime tellement vous parler des vieux que c'est la phrase que je vous sors à chaque fois. Mais pourquoi me direz-vous, pourquoi aime-t-elle tant nous parler des vieux ? Tu vas voir, je parie que pour la Saint-Valentin, elle va nous sortir un truc du style « l'amour n'a pas d'âge » et tout et tout. Je ne sais pas si l'amour a un âge ou si l'amour n'a pas d'âge. Ce que je sais, c'est que l'amour va avec le consentement. Vous voyez le truc « non, c'est non » ? Eh ben, c'est super important dans le sexe et c'est super important à tout âge. Voilà, je le pose ici. Et si j'aime vous parler des vieux, c'est tout simplement parce que je travaille avec eux. Et oui, dans mon travail, j'accompagne des vieilles et des vieux empêcheurs de tourner en rond, qui se bougent pour qu'on continue à considérer les aînés comme des citoyens actifs, qui ont le droit de voter, je vous en ai déjà parlé, qui ont le droit de s'exprimer sur les politiques locales et la manière dont elles tiennent compte ou ne tiennent pas compte des réalités de toutes et tous. Ces vieux qui ont aussi le droit de baiser avec un ou plusieurs partenaires consentants, et ce, même en maison de repos. Ben oui, parce que ça paraît anodin de le dire comme ça, hein, mais les vieux ont une sexualité active. Mais oui, les vieux ont une sexualité active, comme vous, comme moi. Enfin, vous, je ne sais pas, hein, je vous le souhaite. Et cette sexualité des aînés, eh ben, il faut la respecter. Alors, ça veut dire quoi, respecter la sexualité des aînés ? Ça veut dire déjà de 1, l'entendre, de 2, la reconnaître, et de 3, lui laisser une place dans l'image que nous avons du vieillissement. Je vous rappelle que vivre, c'est vieillir. Et donc, ça veut dire qu'il faut lui laisser une aide lorsque l'autonomie de la personne diminue et que s'installe une dépendance de plus en plus importante pour les gestes simples du quotidien, comme s'habiller, se nourrir, se déplacer. L'intimité, c'est la base de la sexualité. Ben oui, comment on baise quand on n'a pas d'intimité ? On n'est peut-être pas encore vieux, mais on a tous été ados. Hein. Comment on baise quand on n'a pas d'intimité, quand la porte de la chambre dans laquelle on vit est toujours ouverte et que quelqu'un, maman ou papa, peut y entrer à tout moment ? Eh bien, c'est la même chose avec les aînés en maison de repos. J'ai conscience que je lance ici un pavé dans la mare, gelé de surcroît, hein, car de 1, la sexualité est encore un énorme tabou dans notre société, et que de 2, si on n'est pas capable de parler de notre propre sexualité, qu'est-ce qu'on se permet de juger celle des autres, surtout ces autres qui ne sont pas comme nous, jeunes, mais pas trop jeunes, vieux, mais pas trop vieux, disons adultes, cisgenres, hétérosexuels et monogames. Ah oui, et j'oubliais, un peu tradis quand même, hein, parce qu'il faudrait quand même pas que maman se prenne trop souvent des fantasmes à la Christian Grey. Ce que je veux dire, c'est que c'est fou qu'on se permette à ce poids de juger qui a le droit de baiser ou non. Et surtout, quand, comment, avec qui et jusqu'à quel âge. Quand on sait qu'une personne sur deux n'est même pas capable de dessiner correctement les propres éléments qui composent son propre sexe. Ouais, l'ignorance fait mal. Très, très mal. Du coup, si le sujet de la découverte des sexualités vous intéresse, je vous conseille deux lectures. La première qui traite spécifiquement du sujet des sexualités des aînés de manière complète, douce et bienveillante, c'est le balise numéro 66 d'Enéo, le mouvement social des aînés. Ce balise s'intitule « Corps à cœur, préserver la liberté relationnelle, affective et amoureuse en maison de repos ». Ce journal propose un tour d'horizon à 360 degrés du sujet. On y parle de l'importance de l'intimité, du corps qui change, de l'éveil des sens et même des normes réglementaires qui accompagnent les relations affectives et amoureuses des résidents en maison de repos. Oui, oui, il y a des normes qui réglementent cela. Ce document est disponible sur le site d'Enéo, c'est enéo.be, et on vous met les références en suivi d'émission. Je vous ai mis le lien dans ma chronique et elle se retrouvera dans le lien sur le site qui accompagne chaque fois nos podcasts. La deuxième lecture, qui est plus large, est le livre « Jouissance Club, une cartographie du plaisir » de June Pla, qui invite la lecteur, lectrice à une exploration des sexes avec de superbes planches explicatives. Il y a de très beaux dessins, de belles couleurs, de belles formes. Et au-delà, ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est que le ton utilisé nous invite dans une démarche d'invitation réelle. Rien n'est imposé, rien n'est codé, rien n'est jugé. On est invité à une exploration de soi à soi, de son sexe, de soi à son sexe, de soi à l'autre aussi. Et ça tombe bien parce que ce livre, qui pour moi est vraiment très très chouette et qui devrait se retrouver dans les mains de tout ado et adulte, se trouve un petit peu partout. Il est disponible vraiment partout. Donc voilà, voili voilou. J'en ai fini avec ma chronique spéciale Saint-Valentin. C'était une chronique assez courte et pour cette édition 2021, je vous souhaite plein d'amour avec du consentement.
Big love, merci Edwin pour cette chronique. Bonne Saint-Valentin à toutes et tous, c'est vrai, tu nous y fais penser, c'est demain. Merci en tout cas, sans transition aucune, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, je laisse la parole du coup à Diana. Gros bisous non. Edwin.
J'avais juste
gros bisous.
Mais pourquoi ne pas dire faire l'amour plutôt que baiser? Hein?
C'est vrai. En fait, baiser est un...
J'ai décidé de remplacer tous les baisers de ta chronique par faire l'amour. Il me semble que ça cadre mieux avec le week-end. Voilà. Et alors, en parlant d'amour...
Avec le week-end, ça va.
En parlant d'amour, si vous aimez les films d'animation, petit rappel pour Anima Online qui démarre ce week-end. Ça a commencé hier. Et donc, vous pouvez trouver sur... online.animafestival.be tous les passes disponibles. Donc cette année, le festival se passe en ligne, hein, c'est ça que ça signifie. Et vous avez plusieurs formules, un peu à tous les budgets. Ça démarre à 8 euros, ça va jusqu'à 30 euros. Et vous pouvez regarder ces films depuis chez vous. Et si vous êtes chanceux et que vous avez un projecteur ou ce type d'appareil qui se répand, vous pouvez vraiment passer un chouette moment. Donc, allez voir un peu les formules disponibles sur Anima Online. C'est le week-end et soutenons ce type d'initiative qui nous ramène à la culture dont on a tellement besoin.
Et c'était la présentation et le mot de la fin. Merci Diana pour ce petit point. Et merci à toutes et tous autour de cette table. Il y avait donc Éloi en début d'émission avec également Jean-Luc Jonlet qui était notre invité de ce mois-ci. Merci beaucoup. Diana également, Edwin qui était en ligne et Baudouin qui était également en ligne. Un tout grand merci à vous toutes et tous. Un très bon week-end également. Et on se retrouve donc le mois prochain, toujours le deuxième samedi du mois de 10h à midi sur 48FM, on parlera de ville et vivant. Je vous laisse à votre imagination pour nous préparer une chouette chronique. On invite bien entendu tout le monde à nous rejoindre si vous souhaitez participer à l'émission, à nous envoyer un petit mot ou à nous préparer un petit mot justement à parler sur notre micro. On termine en musique avec forcément, comme à chaque fois, un petit gars du coin, c'est Bakary, à l'époque qu'on écoute tout de suite. Gros bisous. Et comme dit Edwin, bonne Saint-Valentin à toutes et tous. À bientôt. Ciao.
Au revoir.
J'ai vu le jour en 96, quelque part entre Kigali et Kinshasa. Et tous mes cousins avaient un père. Je me dis que chez moi y a un truc qui ne va pas. Peut-être qu'il m'accueille les conceptions. Pour moi c'est juste une voix au téléphone qui me dit de pas rater l'école. Moi j'y vais pour taper un foot avec les potes. Un peu après je quitte la terre-mère. Ils m'ont dit chez eux c'est le paradis. 10 ans plus tard je suis un parasite. Je vends de la drogue et des armes, j'ai une carabine. Des seringues par terre et des carapils. Chez nous c'est cash, sexe, alcool et cannabis. Je fais du sale dans ma ville, baqué par Anis. Drame sang et pleurs dans la trame narrative.
On revient de si loin, je me perds dans mes souvenirs. Qu'est-ce qu'elle était bien, mais qu'est-ce qu'elle est loin. L'époque où on tenait les murs, on rêvait de ailleurs.